Grenoble-Alpes Métropole présente Le féminisme fait le printemps, quatre rencontres avec des personnalités inspirantes pour mettre en lumière certains enjeux des luttes féministes. Candice de Léo a publié en 2022 « Et si les princes portaient des robes ?» Écrit à 16 ans, cet essai rassemble ses réflexions et ses expériences de jeunes féministes. Tess Kinski, autrice et dessinatrice de BD, a publié en 2022 Super Cyprine. Elle invente une super-héroïne à la Cyprine corrosive, menant une lutte vengeresse contre les harceleurs de rue, les hommes violents et le sexisme.
Donc, bonjour à toutes et à tous. On va faire la conférence avec une sorte d'auto-interview. On va poser trois questions et on va répondre l'une et l'autre à ces trois questions. Donc voilà, je commence par la première. On va traiter du processus de création. Donc, Candice, quel a été ton processus de création pour en venir au livre publié par ta maison d'édition ?
Du coup, moi, j'ai toujours écrit, en fait. Enfin, depuis que je suis petite, j'écrivais dans mes journaux intimes. Et par exemple, quand je partais en vacances, j'avais des carnets de vacances. Donc je racontais mes vacances dedans et là je le faisais lire, c'était pas personnel. Et je sais pas, même j'écrivais des cartes postales ou quoi, et j'avais vraiment cet amour de l'écriture. Et donc quand j'ai commencé à être féministe à l'âge de 10 ans, donc je suis rentrée au collège en même temps, j'ai commencé à écrire un peu des textes engagés. Je me souviens, par exemple, mon premier texte engagé, c'était... Donc, j'avais 13 ans, je venais de me faire harceler dans la rue. Et j'étais vraiment énervée, en colère. Et j'ai eu une forme de rage qui est venue en moi. Et là, je me suis dit, non, c'est pas normal. Et j'ai écrit un texte, donc féministe. Et maintenant, quand je le relis, je me dis que c'est assez maladroit. Mais j'avais déjà cette colère qui me servait comme un moteur pour parvenir à ce que je voulais. Et ensuite, donc, il y a eu le premier confinement en 2020. Et là, j'ai vraiment fait une sorte d'introspection. Et je me suis dit que le féminisme, c'était central dans ma manière de penser, de parler, d'agir, de réfléchir. Et du coup, c'était vraiment important pour moi. Et à peu près en même temps, j'ai voulu faire le service national universel. Donc maintenant, je trouve pas que c'est une bonne idée, mais en tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup. Donc j'étais avec la déléguée départementale aux droits des femmes. Et en fait, ça m'a vraiment donné de l'espoir. Parce que j'ai vu qu'on pouvait mélanger ses convictions avec son métier. Je trouvais ça vraiment trop bien, hyper inspirant. Et aussi, je me disais que ouais, parfois c'était déprimant, en fait, quand à la télé on entendait parler de féminicide, qu'il y avait les chiffres sur les violences qui avaient augmenté pendant le confinement. C'était un peu déprimant, mais justement, quand j'ai fait cette mission, j'ai rencontré beaucoup d'associations féministes et j'ai rencontré aussi la Maison pour l'égalité. Et du coup, je me suis servie de cet espoir, en fait. Enfin, ça m'a donné de l'inspiration. Et une fois, j'étais dans le tram et j'ai la phrase « Et si les princes portaient des robes ?» qui est venue dans ma tête. Et je me suis dit... Ok, en vrai, c'est cool. Enfin, j'aime bien cette phrase. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'en ai fait un texte, un petit texte, ouais, sur cette phrase et un dessin. Et en parallèle, toujours dans la même période, j'ai voulu écrire une lettre à Victoire Tuaillon, qui fait le podcast Les couilles sur la table, pour lui dire que je l'admirais énormément parce que c'est vraiment une ressource qui m'a beaucoup appris sur comment fonctionner. Le patriarcat et qui donnait des solutions pour essayer de lutter et tout. Et donc j'ai commencé à écrire, j'ai beaucoup, beaucoup écrit. Je me suis dit, ok, en fait, genre là, j'écris trop et ce sera pas une lettre pour elle. Et du coup, j'ai mélangé ce que j'avais commencé à écrire avec Et si les princes portaient des robes, le petit texte que j'avais fait. Je me disais que c'était plutôt bien. Donc je l'ai lu à ma sœur Amandine et elle m'a dit que c'était vraiment bien et là, ça m'a donné... plein d'espoir et du coup c'était en août 2020, j'ai écrit sans m'arrêter tout le temps. Après j'ai formé des chapitres en prenant mon vécu et en essayant de rallier des documents sur Internet et de le sourcer, de mettre des chiffres. Et donc, ça devenait une première ébauche de « Et si les princes portaient des robes ?» Et après, en parallèle, je l'ai présenté à la Maison pour l'égalité, pour le projet « Jeunes pour l'égalité ». Et j'ai été sélectionnée. Et là, c'était une première fierté, en fait. Enfin, j'étais vraiment contente de me dire que ce que j'écrivais, ça pouvait devenir quelque chose. Après, j'ai pu recevoir des conseils pour améliorer mon livre. En parallèle, j'ai lu plein de livres féministes. J'en avais lu aucun en faisant la première ébauche de « Et si les princes portaient des robes ?» Et du coup, j'ai rajouté plein de livres féministes. Enfin, je me suis appuyée dessus. Et j'ai aussi pu faire des interventions en milieu scolaire pendant cette période. Et ça, c'était vraiment bien. Parce que je trouve que l'éducation, bah, c'est la clé de tout, au final. Et ça m'a beaucoup inspirée aussi. Et puis après, donc, en août 2021, j'ai envoyé mon livre aux maisons d'édition. Et en fait, j'avais assez confiance en moi. Enfin, j'étais confiante. Et un mois et demi plus tard, le livre de poche m'a appelée et m'a dit qu'il souhaitait me publier. Et j'étais vraiment trop contente aussi, enfin, vraiment fière de moi. Et là, je me retrouve ici et c'est trop bien. Du coup, Tess, ça s'est passé comment, ton processus de création ?
Alors, bah, déjà, j'ai trouvé ça trop inspirant, là, tout ce que tu as raconté. C'est trop bien d'avoir cet espoir et d'avoir des gens autour de nous qui nous portent quand on crée, parce que c'est un moment de vulnérabilité, quoi. Moi, en fait, j'ai commencé à écrire cette BD. J'ai eu l'idée suite à un harcèlement de rue classique, quoi, où j'ai pas su répondre comme d'habitude. En fait, dans la rue, j'ai peur, je dis rien. Et à chaque fois après, quand je rentre, comme beaucoup d'entre nous, on se refait le scénario et on se dit ce qu'on aurait dû dire. Vous m'entendez bien ou pas ? Ça va. Et en fait, je suis rentrée chez moi et à l'époque, en fait, j'avais changé de voie. Je faisais de la peinture, en fait. Je dessinais des corps d'hommes nus et plus particulièrement des fesses d'hommes. Et donc, tout mon délire à l'époque, c'était de sublimer le corps des hommes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop de colère pour continuer à faire ça. J'arrivais pas, ça marchait pas, quoi. J'étais pas disposée. Et ce harcèlement là qui est arrivé là comme ça, banal, hein, mais je sais pas, celui-là, je me suis dit en rentrant, je sais pas, je me suis imaginé une alter ego qui aurait pas peur de répondre et qui saurait se défendre, en fait. Et je sais pas, j'ai imaginé une sorte de Catwoman qui surgirait d'un toit et qui irait genre attaquer les mecs comme ça, qui ferait chier. Bref. Et en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai écrit un premier jet, mais vraiment pareil, le truc de la rage là. Et je me suis dit, après le processus de création, on peut en parler beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'inconscient dans ce qu'on fait. Et moi, je me rends compte en parlant de ce que j'ai fait que j'explique après coup des choses, en fait, je sais pas trop d'où ça sort. Mais bref, donc il y a ce jet qui est sorti. Et en écrivant le jet, je me suis dit. En fait, je savais pas ce que j'allais en faire, mais je sais pas. Je me suis prise au jeu et je me suis dit parce que j'écrivais pas du tout en fait. Hein, moi, je faisais de la peinture. Quoi. Et avant ça, j'étais chef de projet dans une boîte à Paris. Enfin, rien à voir. Et je me suis dit, tiens, ok, ce serait mon alter ego, une sorte de super héroïne. Dans quel milieu elle pourrait évoluer? Donc, ça se passe dans un cabaret, parce qu'à l'époque, j'allais beaucoup dans un cabaret en particulier à Paris qui m'a vraiment émerveillée et fascinée. Qui m'a énormément inspirée. Enfin, bref, c'était très fort pendant cette période. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait génial si elle évoluait là-dedans, en fait, dans ce cabaret. Et en fait, j'ai essayé de prendre plaisir à imaginer une histoire. C'était vraiment une joie de créer, quoi, un personnage et un monde avec que ce que j'aime. Enfin, je sais pas, c'est trop bien, en fait, de la fiction. Pour parler de ses sentiments et un peu déguiser tout ça, je recommande, c'est super. Donc, on peut créer un monde comme ça avec tout ce qu'on aime. Donc, c'est ça, en fait, qui a motivé... ce premier jet. Et après, je me suis dit, comme je lisais énormément de BD, je lisais que des BD féministes. En fait, vraiment, la BD féministe, c'est un énorme... une énorme source de liberté créatrice, et il y a plein de femmes qui s'expriment à travers ce biais, et c'est hyper intéressant, c'est hyper réjouissant. J'étais super emballée par ce médium, et je me suis dit, bah tiens, en fait, je vais faire ça, je vais dessiner cette histoire, je vais faire une BD, et puis comme ça je prendrai la main, je continue de dessiner en fait, et puis je peux raconter mon histoire. Et du coup, j'ai commencé à créer cette histoire, à vouloir le prendre au sérieux. Du coup, j'ai fait une formation de BD à distance. C'était un truc un peu absurde comme ça. Mais en fait, je faisais de la peinture. J'avais un prof de peinture qui me donnait énormément de bons conseils à Paris. Et il m'avait dit, tu devrais regarder les formations à distance parce que, en fait, c'est bien. Et puis là, tu vas pas refaire une école d'art. C'est trop tard. J'avais, je sais plus, 28 ans, quoi. J'avais pas le temps de faire 5 ans d'école d'art. Et donc, j'ai fait une formation comme ça sur un an. Et c'était super. J'avais un prof qui... Et j'avais un projet, donc c'était très efficace, quoi. Enfin, j'avais mon projet et j'avais un prof qui m'aidait à le mettre en œuvre. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Après, j'ai voulu le présenter à des maisons d'édition. Mais là, il y a eu le Covid. Et là, en fait, le milieu de l'édition, dans les journaux, disait... Tous les éditeurs disaient, bah voilà, on va publier beaucoup moins de livres, enfin, on va éditer beaucoup moins de livres, et puis on arrête d'éditer des jeunes auteurs. Enfin, bon, c'était un peu le. Il y a eu des exceptions, hein, mais. Et enfin, c'était l'ambiance générale, quoi. Et ils disaient, voilà, on va tout mettre sur nos auteurs qui fonctionnent, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire, et il faut absolument que je sorte cette histoire, il faut que je l'aboutisse. Et du coup, j'avais un cousin qui faisait de l'auto-édition. Et il m'a dit, bah, fais de l'auto-édition. Tant pis, on s'en fiche des éditeurs. Et du coup, j'ai fait une campagne de pré-vente sur Ulule. Et j'ai auto-édité cette BD. Du coup, ça m'a permis d'avoir des gens qui me soutenaient, en fait, pendant que je dessinais et que je créais cette BD. C'était super. Et donc, ça a duré un an et demi. Et après, à partir du moment où j'ai reçu ma BD imprimée chez moi, ma palette, là, dans mon immeuble, il y avait une énorme palette de BD. Il y avait une fille qui m'avait contactée sur Instagram pour faire un festival féministe à Paris avec ma BD, quoi. Et à deux jours près, j'avais pas mes livres, je pouvais pas y aller, quoi. Donc, je reçois mes BD et je pars à Paris avec mes BD à ce festival. Et en fait, là, il y avait d'autres autrices de BD et il y avait une maison d'édition qui était les éditions Masso. Et qui ont vu que, bah, je sais pas, ce jour-là, j'ai vendu beaucoup de BD, c'était incroyable. Et du coup, ils m'ont dit, ah, c'est cool et tout, tu voudrais pas un éditeur par hasard? Et moi, je me disais, évidemment que je veux un éditeur, j'ai pas envie de distribuer cette BD toute seule, de communiquer, tout ça, c'est énorme en fait. Enfin, je peux avoir toute l'énergie que je veux, je vais pas aller vendre toute seule ma BD dans toutes les villes de France. Parce qu'à Grenoble, je suis comme allée avec mon sac à dos voir toutes les librairies et tout de Grenoble qui m'ont vachement soutenue. C'était trop cool d'avoir les retours des libraires et tout. Et en plus, je restockais, donc c'était trop bien. Mais enfin, j'avais envie que ce soit. Évidemment, qu'on a envie quand on crée quelque chose que ce soit diffusé. En plus, quand on fait des choses comme avec Candice qui ont des. Un peu des messages qu'on a envie de diffuser, j'avais envie que ça se diffuse, quoi. Et du coup, voilà, les éditions Masso ont repris le tome 1, comme ça, et l'ont édité. Donc voilà, c'est trop bien. Et voilà. Du coup, j'enchaîne avec la deuxième question, qui va parler de, voilà, des messages, donc j'en ai parlé. Donc, quel type de message veux-tu faire passer, Candice, et comment ils t'ont fait évoluer depuis l'écriture de ton livre ?
Il y a vraiment plusieurs messages que je veux faire passer. C'est surtout axé, par exemple, sur toutes les injonctions qu'on a en tant que femme sur notre corps, et je trouve ça révoltant. Et au final, c'est un peu, bah, de dire que, de toute façon, en tant que femme, peu importe notre poids, notre manière de nous habiller, enfin, on sera toujours critiqué. Et justement, on peut essayer de se défaire de ça pour vivre peut-être un peu plus librement, même si c'est pas facile du tout. Et je veux pas, par exemple, créer une autre injonction en disant que c'est facile de se défaire des injonctions. Mais en tout cas, si on s'en défait, il y a un côté un peu intéressant. Et aussi, ouais, c'est vraiment cette libération du corps que je trouve important, parce que si en tant que femme, on est toujours jugée sur notre sexualité et notre corps, c'est comme s'il appartenait aux autres, parce que on nous critique, on se fait harceler dans la rue, on subit des trucs pas cool, et même dans les publicités, on sexualise le corps des femmes. Donc on le montre de partout, mais nous-mêmes, des fois, on est perdu avec, en fait, est-ce que mon corps, il m'appartient ou pas ? Donc la réponse, c'est oui. Et justement, bah, j'essaie de prôner un message d'acceptation, même si bah, c'est pas facile de se l'appliquer à soi-même. Mais déjà, ça permet d'avoir un autre regard sur les corps qu'il y a autour de nous et de les regarder différemment. Et puis aussi, j'essaie de déconstruire un peu les clichés, on a des rôles genrés, par exemple. Mon but, c'est aussi bah, juste de donner espoir, parce que bah, je trouve que c'est l'espoir qui peut nous faire avancer en tant que féministe ou écologiste, enfin militant ou quoi. Et que si on n'a pas vraiment d'espoir, bah, parfois c'est démotivant. Et puis bah, aussi... ouais, il y a des choses qui ont changé, par exemple pour moi depuis que j'ai écrit le livre, parce que bah je l'ai écrit, je venais d'avoir 16 ans et là je viens d'en avoir 19. Donc c'est sûr que en 3 ans il y a des choses qui changent, et puis même bah quand on est adolescent, adolescente, enfin on est en pleine construction. Et par exemple bah pendant que j'écrivais mon livre, il y a plein de choses qui ont changé pour moi entre le premier jet d'écriture et tout le processus dans les mois qui ont suivi. Bah, par exemple, je sais pas, dans mon livre, je dis que mon orientation sexuelle, je suis pansexuelle, mais que j'ai pas encore eu d'attirance envers des femmes. Et par exemple, bah, pendant que je l'écrivais, ça a changé. Enfin, j'étais attirée par des femmes. Mais je me suis dit que j'allais pas modifier tout ce que j'écrivais, parce que bah, sinon, le livre, il sortirait jamais. Parce que j'allais sans arrêt le modifier. Et ouais, du coup, bah, j'ai décidé de le laisser comme ça. Et je trouve que peut-être il est un peu brut, mais c'est ce que j'aime bien, c'est la sincérité. Et du coup, ça le rend plutôt authentique. Et puis aussi, bah, ce que j'essaie de véhiculer en général, c'est qu'on se foute la paix. Enfin, juste qu'on se laisse vivre. Et tant qu'on respecte les autres... bah, c'est le principal, et que soi-même on sait à peu près ce qu'on veut. Enfin, je sais pas, ça peut nous permettre de réaliser les choses. Et du coup, bah, toi, Tess, tu...
Du coup, moi, ouais, les messages que je veux faire passer, en fait, moi, le message principal, enfin, c'est pas un message, mais la volonté que j'ai, c'est de rééquilibrer les imaginaires. En fait, dans la fiction, dans les séries, dans les films, dans les livres, dans les chansons, les musiques qu'on écoute. Enfin, moi, j'ai écouté du hip-hop. Et là, je réécoute en ce moment, mais c'est terrible, tous les messages véhiculés. Et en fait, on se rend compte que tous les stéréotypes qui sont notre quotidien, toutes les agressions, toutes les humiliations et tout qu'on a quand on est surtout des jeunes filles en construction, parce que c'est là où les gens se permettent le plus de commenter bah, nos corps, notre apparence, même notre comportement. Tous ces stéréotypes sont vraiment renforcés dans tout ce qu'on lit, dans tous les trucs divertissants, quoi, dans toute la culture et tout, c'est hyper renforcé. Je sais que, par exemple, dans les mangas, il y a pas mal de problèmes de romances qui sont un peu toxiques, tout ça, tous ces trucs-là qui rentrent en fait dans notre inconscient. Et en fait, donc on vit nos vies, ok, donc voilà, on est dans la rue, on se fait harceler et tout, et après on regarde des films, des séries. Et par exemple, on va regarder le premier épisode de Game of Thrones et il y a des viols comme ça, gratuits. Enfin, c'est insupportable. En fait, c'est juste pour dire que c'est constant, en fait, tout le temps, on est ramené à ça, à avoir peur, en fait, tout le temps aussi, cette peur-là qui est véhiculée. Et on a des images de femmes qui sont des femmes soumises, un peu faibles, un peu qui minaudent, et puis surtout avec des physiques toujours les mêmes, quoi. Et ça, en fait, c'est moi. Je sais que quand j'étais ado, enfin à 16 ans, j'étais vraiment en recherche de personnages féminins qui étaient forts, qui savaient se battre. Genre, je regardais Dark Angel, mais j'ai un peu peur là que vous ayez pas la ref. Domino, enfin, je sais plus. Des films avec Michelle Rodriguez dans Fast and Furious. J'aimais trop Michelle Rodriguez. Après, elle a fait d'autres films, c'était trop cool et tout. Et du coup, voilà, je me suis inspirée de ces femmes-là. Il y a eu aussi le film de Quentin Tarantino, Le Boulevard de la Mort. Bon, je sais pas. Mais ça, c'est un film de revanche qui est dingue, mais vraiment qui est jouissif. Et ça m'a vachement marquée parce que je suis allée le voir avec ma mère au cinéma. Et à la fin, on a eu ce truc de c'était jouissif, la scène finale. Et ma mère aussi. Et j'étais, ah, putain, mais en fait... Enfin, même ma mère, en fait, elle a besoin de ces images-là de représentation de femmes qui prennent le pouvoir, quoi, qui se défendent. Et du coup, voilà, c'est ça que j'ai voulu faire avec Super Cyprine, c'est bah, juste mettre un personnage féminin dans le monde comme ça. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que ce soit diffusé. Et parce que j'aurais eu besoin plus de... Et je pense qu'on en a besoin de bien plus de personnages comme ça, en fait. Et voilà, c'était ça le message qui me tenait à cœur le plus, quoi. Et du coup, voilà, d'avoir une héroïne qui se défend, qui a pas peur de se défendre et tout. Et aussi, j'ai voulu représenter dans le début de la BD, y a des scènes de sexualité aussi. Ça aussi, ça me tenait à cœur de montrer. Alors, on a pu me reprocher que c'était pas hyper réaliste, mais j'ai fait exprès en fait de mettre une jeune femme au lycée qui a des relations avec des mecs. Bon, elle est hétéro dans le début de ce tome. Et elle a des relations avec des mecs qui sont bienveillants. Elle est OK, c'est cool. Son plaisir, il est important. Et j'avais aussi envie de montrer une sexualité positive et aussi une découverte de la sexualité qui était positive. Ça, je trouve que c'est important de montrer que bah, ça peut exister, même juste dans notre imaginaire. Juste... Ok, dans ce livre-là, ça se passe bien, c'est cool. Et c'est peut-être le début de quelque chose, en fait. Je pense vraiment que tous ces trucs qui nous nourrissent, ça rentre dans notre inconscient et c'est important qu'on les débloque, en fait. Et surtout, comme quand moi, je ne suis pas capable, dans la vraie vie, de vraiment tout le temps genre, être hyper pertinente, de me défendre et tout. Et puis, moi, j'ai un physique frêle, j'ai toujours été frêle. Vraiment, me défendre, me battre, ce n'était pas mon truc. Même si j'ai fait des sports de combat, ça m'a un peu aidée. Mais bon, c'était voilà, comme ça... pour me rassurer, mais et je pense que c'est important, voilà, que dans les imaginaires, ça, au moins qu'il y ait des capsules comme ça où on peut aller trouver du réconfort et de la catharsis aussi, juste pour ouais, parce que ça fait du bien d'avoir des histoires comme ça, en fait, ça, je sais pas, ça nous réconforte, ça nous console de voir que bah on peut imaginer en fait des femmes qui savent se défendre et ça existe. Ma petite sœur, elle, c'est une grande malade et elle quand elle se fait harceler, elle lâche pas l'affaire, elle est ultra, elle parle fort et elle lâche pas. Et je lui disais, mais t'as pas peur, en fait? Et elle me disait, mais en fait, je refuse d'avoir peur. Même si je me prends un pain dans la gueule, je refuse d'avoir peur. Et voilà, donc il y a des femmes aussi qui existent. Donc voilà, il y a un peu de ma petite sœur dans mon personnage. Et donc voilà, je pense que ça, c'est un des messages les plus importants à faire passer. Et ouais, en quoi ça m'a fait évoluer? En fait, le tome 1, ça m'a fait du bien, mais c'était pas assez... j'y suis allée assez soft, en vrai, dans ce tome 1, sur la violence, parce que c'est compliqué de dessiner des scènes de violence. C'est compliqué à traiter comme sujet, mais à la fois, ça me tient énormément à cœur, parce que y a aussi de la violence dans les femmes, en fait. On a aussi de l'agressivité, et je pense que c'est important qu'on s'autorise à la voir et à l'exprimer, même si c'est pas dans la vraie vie, si c'est dans l'art et tout, cette rage-là, on l'a toute, en fait. Et voilà, je pense que c'était aussi un thème, là, la violence des femmes, qui m'intéresse vachement et que j'ai pas encore résolu totalement. Mais je trouve que c'est important de la voir. Je sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est important qu'on voit des femmes violentes. Voilà. Voilà, question d'équilibre, quoi. Et c'est aussi très important d'avoir des représentations, à mon avis, hein, d'hommes doux. Enfin, moi, je dis toujours homme doux. Mais c'est ce que j'avais commencé à faire avec mes peintures. Et peut-être que j'y reviendrai quand je serai un peu plus apaisée, mais pour l'instant, c'est pas trop le chemin. Mais voilà, c'est ça, c'est tout cet équilibre. Et...
Bah, moi, je trouve aussi que c'est super important, ouais, d'avoir des rôles, des modèles de femmes qui nous inspirent. Et je trouve que dans ta BD, bah, c'est vraiment bien, tu vois, de avec cette héroïne. C'est trop cool. Et ouais, moi, je m'appuie beaucoup. Bah, j'ai de l'admiration pour beaucoup de femmes. Par exemple, Virginie Despentes, j'aime beaucoup ce qu'elle dit sa manière de parler assez brute. On lui reproche beaucoup d'être trash, mais je trouve que c'est important en fait de des fois pas forcément mettre les formes et dire les choses comme on pense. Et Victoire Tuaillon aussi, j'aime beaucoup. Et par exemple, dans mon livre, j'ai tout un chapitre qui s'appelle « Parenthèse inspirante » où je parle de toutes les ressources que j'utilise au quotidien pour me cultiver sur le féminisme. Et je trouve que ouais, c'est important de mettre en valeur des femmes, en fait. Enfin, ça m'inspire énormément et ça me pousse à vouloir... évoluer et à continuer enfin voilà. Et par exemple ouais, pour le harcèlement de rue, bah moi j'ai peur en fait dans la rue. Enfin, j'aimerais bien réussir à pouvoir répondre aux hommes quand ils viennent m'harceler, et des fois je me méfie alors qu'ils viennent juste me demander une cigarette, mais juste je suis pas sereine. Et je pense que faut pas non plus se culpabiliser de pas toujours savoir répondre parce que on fait comme on peut. Voilà.
Et après, on peut toujours se défendre dans des mondes imaginaires, donc ça c'est rassurant quand même.
Donc du coup, toi, tu travailles sur quoi en ce moment ? Voilà.
Donc là, c'est la suite. Bah moi, je travaille sur le tome 2 des aventures de Cyprine, mon héroïne, parce que en fait, là, j'ai tiré le fil et j'arrête. Pas de le tirer, quoi. J'ai un tome 3 dans la tête et tout. J'aimerais bien faire une saga féministe, vraiment, où je traite de tous les sujets du moment que j'ai en moi. Et du coup, le tome 2, ça reprend la question de la violence et ça va un peu plus loin. J'avais besoin d'explorer un peu plus cette facette de ma BD qui est quand même, pour le tome 1, assez légère, assez drôle de ce qu'on m'en a dit. Ça va, c'était pas trop plombant. Et le tome 2, c'est une autre façon d'exprimer sa violence, un peu plus réaliste. J'avais besoin d'aller plus dans le concret et d'avoir aussi amené plus une idée du collectif. Qu'est-ce que ça fait un groupe de femmes ensemble qui est vénère, quoi. Donc ce sera le tome 2. Et après, dans mes autres tomes, j'ai envie d'aborder plein de questions. Là, je viens d'avoir un enfant, un garçon, donc ça m'a bien... casser le cerveau. Du coup, ça, c'est des questions que j'ai envie de traiter aussi plus tard. Et puis voilà, il y en a des milliards avec tous les livres qu'on lit. Moi aussi, je lis, j'écoute des podcasts, mais c'est génial, ça a vraiment démocratisé toutes ces pensées. On peut vraiment les écouter, ça nous change et ça constitue comme ça une petite armée de féministes là qui arrivent et on veut créer, on est inspiré et ça fait un élan comme ça, boule de neige. Et c'est hyper important que ça prenne, quoi, c'est génial. Et du coup, voilà, je pense que dans la création aussi, on est parcouru par tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on vit et tout ce qui nous nourrit. Et tout ça, ça se digère après un peu comme ça peut. Et voilà. Donc, je laisse la parole à Candice maintenant.
Moi, en ce moment, je travaille sur un recueil de poèmes. Donc, ça fait depuis 2021 que je suis en train de l'écrire. Mais j'avais pas vraiment... Enfin, j'écrivais juste des poèmes sans but d'en faire un recueil. Et là, ouais, depuis 2022, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en faire un recueil. Et dedans, bah, je parle beaucoup d'émotions, de ma vie. Il y a un côté aussi engagé, forcément. Mais ouais, bah, c'est vrai que c'est très personnel. Et bah, par exemple, se prendre pour parler de soi dans des livres, c'est pas très facile. Mais j'aime bien parce que je sais pas, enfin j'aime bien extérioriser de cette manière-là. Et aussi, bah, par exemple, j'ai fait un concours d'éloquence au mois de janvier, donc je m'entraîne aussi quand j'écris, à pouvoir interpréter mes textes. Je trouve que c'est une partie très intéressante. Et du coup, là, j'ai un poème que j'ai écrit qui s'appelle Femme, et je vais le lire. Femme, je serai prête à me battre seins nus dans les rues, pour nous, femmes, cisgenres, transgenres, pour mes sœurs, le sujet me touche en plein cœur. mon désarroi, j'irai le crier. Pour toutes celles tuées sans pitié. Vous, les gouverneurs, êtes peut-être les rois du patriarcat, mais vos places au sommet me glacent, les grands privilégiés de ce monde intoxiqué. Cessons de parler de vous. Vous êtes un fléau qui me met à genoux. Minorisés, tous oppressés, humanité rattachée à la cruauté, violence qui danse, souffrance et arrogance. À toutes celles torturées en toute impunité, à toutes celles oubliées en toute liberté, je vous soutiens. Ne pas se revendiquer féministe, c'est choisir. Car ne pas l'être, c'est quand même choisir. Il est grand temps d'arrêter de nous entendre, mais plutôt d'écouter pour ne plus attendre. Je verserai de l'encre toute ma vie s'il le faut. Je veux désobéir pour agir. Je veux m'extirper de ceux qui m'ont fait subir. Je lirai, je vous lirai, grande femme, pour m'enrichir et raviver la flamme. Je ne veux plus de Polanski au cinéma, mais du grand Céline Sciamma. Femme, ne soyons pas rivales, mais marchons ensemble contre cette cavale. Alliés, laissez-nous nous exprimer.
Merci et merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien voilà, c'était un super moment. Enfin, moi je suis très émue par, par ton poème, Candice, et puis par ce que vous avez dit toutes les deux. C'est vraiment très chouette et ça me convainc encore plus. On était déjà convaincus que ce que l'on fait là avec ces sessions, ces conférences, c'est un... Voilà, ça a du sens et puis c'est inspirant. Merci d'être tellement inspirante. Alors, est-ce qu'il y a on va faire un petit moment de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ou voilà, s'il y a, on va faire passer le micro. Voilà, je fais passer.
Bonsoir. Vous avez toutes les deux parlé de violence et de colère et notamment dans l'écriture et je me demandais si en retour, vous avez fait face à éventuellement de la violence en réponse à vos travaux ou, enfin, et comment vous l'avez géré si ça a été le cas. Comment vous gérez aussi la violence qui arrive en face sur des sujets qui sont très personnels et qui nous touchent au cœur.
Bah, moi, c'est vrai que j'ai fait face à un peu de... Je dirais pas que c'est de la violence, mais forcément, enfin, les gens sont un peu surpris de ce que je dis parce que vu que je parle de moi et enfin du féminisme en général, mais je prends mon exemple, il y a forcément des gens qui sont touchés personnellement. Par exemple, je sais pas, quand je fais des interviews, on pose souvent des questions sur comment ma famille a pris ce que j'ai écrit ou quoi, et bah c'est toujours compliqué d'y répondre. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un peu du mécontentement, mais il y a aussi certaines personnes de ma famille qui n'ont pas lu le livre. Et j'en suis contente parce que bah, au moins, je suis tranquille. Et après, bah, j'ai déjà vu, je sais pas, un commentaire qui disait « j'ai lu féministe, j'ai lâché l'affaire ». Mais sinon, je ne considère pas vraiment me prendre de la violence. J'ai l'impression que quand même, c'est bien accueilli et que ça intéresse des personnes. Et je suis contente.
Ouais, non, moi j'ai pas d'exemple de violence par rapport à ce que j'ai écrit. J'étais surprise que beaucoup d'hommes lisent ma BD et me fassent des bons retours. Et il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont offert ma BD à leurs copines, donc c'est vraiment trop bien. Ça me donne de l'espoir parce que moi j'ai vraiment écrit ma BD pour les femmes, quoi, toutes les femmes. Ouais. Après, je me souviens quand même si que j'avais fait pour ma campagne Ulule des vidéos pour présenter mon projet. Et j'avais mis ça sur YouTube parce que c'était plus facile. Et j'avais mis en public. Et là, je me suis pris des commentaires, mais un truc de fou. Enfin, une fois qu'il y en a un, il y en a mille, quoi. Bon, il n'y en avait pas mille, mais voilà, il y en avait beaucoup. Et j'ai dû désactiver et laisser juste sur ma plateforme Ulule, quoi. Enfin, j'ai compris comment on pouvait restreindre le truc. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ouf, quoi. Enfin, ouais, là, ça, c'était assez. Mais c'est vraiment anecdotique. Et puis, j'ai coupé court. Après, je trouve que. Ouais, non. Les critiques, après, elles sont plus dures vis-à-vis de, je trouve, de la communauté féministe. Là, c'est plus, là, on est sur un autre niveau, quoi. Ça m'a plus remise en question. Mais sinon, je pense que ça va, ça intéresse pas les gens qui se sentent agressés par ce genre de choses. Donc, c'est pratique.
Et moi aussi, personnellement, je sais qu'il y a des sites, par exemple, Babelio, où on peut lire les commentaires sur notre livre ou quoi. J'essaie de pas aller les lire parce que une fois j'en ai vu un qui était pas très gentil et ça m'a un peu fait du mal, mais je me suis dit que bah en fait ça en valait pas le coup et au contraire je préfère vraiment me focaliser sur tous les messages que je reçois sur Instagram de personnes qui me disent que mon livre bah ils auraient bien aimé l'avoir quand ils étaient adolescents ou même de personnes qui ont 16 ans et qui lisent mon livre. Et ça, ça me fait plaisir, en fait. Enfin, je me concentre vraiment sur ça.
Déjà, bravo à toutes les deux, parce que c'était trop bien. Vous avez toutes les deux parlé de la peur. Et c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche toutes. Enfin, je pense qu'on a toutes déjà changé de trottoir face à un drôle de personnage qui nous paraît un peu louche. Et ma question, du coup, c'est comment on fait pour avoir un tout petit peu moins peur? Comment on fait pour se décider finalement à porter cette robe ce soir-là? Parce que mine de rien, elle est vachement belle et puis on se sent bien dedans. Après, c'est ultra philosophique comme question, mais c'est vraiment une question que je me pose tous les jours. Du coup, si vous avez une idée, je suis preneuse.
Moi, j'ai pas répondu à cette question pour moi-même, à part de me plonger dans des mondes imaginaires et d'être recroquevillée dans la fiction. J'avoue, non, moi, je porte pas de robe. Ouais, moi, ma réponse à ça, ça a été de jamais être en talons. J'ai tous les signes de féminité. Je peux pas, quoi. J'ai essayé à 16 ans et j'ai compris et j'ai arrêté complètement. Ouais, ça, c'est irrésolu chez moi. D'ailleurs, ça me saoule parce que ma sœur, justement, elle a une approche de la féminité très coquette, très féminine dans la culture féminine, très, je sais pas, flamboyante. Et ça m'inspire grave et je lui pose beaucoup de questions là-dessus. Et elle a décidé d'assumer, mais moi, je sais pas, parce que je pense que c'est un... Ouais, tu parles de robe, quoi. Et puis après, sinon, ma technique, c'est d'avoir l'air vraiment d'être méchante. Et d'avoir une démarche un peu genre, faut pas me faire chier quoi, mais c'est chiant en fait, on peut pas être tranquille et genre marcher la tête en l'air quoi, c'est clair. Hein. Et même encore dans les parcs, quand j'ai envie de me poser et de lire un livre, il y a toujours un gars là qui vient. Et maintenant, vraiment, maintenant, je pars en fait. Je vois un mec marcher, je m'en fous, ça se trouve il est bien intentionné, ça se trouve il va me demander une clope. Je me casse, ça me saoule, j'ai pas envie d'être là, expliquer que j'ai pas envie qu'on me parle. Et je suis vraiment un mauvais exemple, du coup je vais me taire. Enfin, j'ai pas de...
Moi, j'ai peur, mais parfois, j'ai des petits élans de rage quand je marche dans la rue. Je me dis, OK, là, le premier qui me fait un commentaire, je le remballe. Sauf que dans ces moments-là, ça se passe jamais. Mais après, des fois, je m'y attends pas. Une fois, j'étais avec une de mes amies en robe et le monsieur, il me fait, eh, la blonde, viens, on fait l'amour. Et je lui dis non, hors de question. Enfin, c'est pas une réponse très énervée, mais pour une fois, j'étais vraiment fière de répondre, et ça m'a fait un peu du bien, même si bah dans ces moments-là, après, on tremble et on a le cœur qui bat vite, et ça me met en colère. Mais justement, j'utilise cette colère pour écrire, et voilà.
Après, le reproche, c'est que moi, on m'a déjà demandé est-ce que le harcèlement de rue n'avait pas nourri une certaine créativité, tout comme si, en fait, ça m'avait servi, quoi. Donc, pareil, ça, c'est l'ambivalence de la vie. Et ouais. Mais je pense que quand même, je viens de réaliser, quand j'étais enceinte, j'arrivais à répondre, c'était trop bizarre. Et je répondais avec de l'humour. Enfin, c'est le truc qu'on m'avait toujours dit de faire et tout. Et en fait, ça marche. De vraiment twister le truc en mode non mais vous êtes pas vraiment en train de dire ça et tout, en rigolant un peu, en étant un peu sarcastique, et ça désarçonne vraiment les mecs, quoi. Mais j'ai réussi que quand j'étais enceinte, je sais pas, j'avais les hormones alignées. Mais là, maintenant, ça peut m'arriver de hurler sur des mecs quand même, j'avoue, je le fais, mais en partant, quoi. Je pars vite, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. Je pense que, déjà, avec l'âge, ça passe. Franchement, moi, je me fais vraiment moins harceler, je touche du bois. Mais... Et ouais, il y a une certaine... Au bout d'un moment, on prend une assurance aussi. Je pense que ça passe pas mal par le comportement physique qu'on a dans la rue, quoi. Et je pense que ça, les sports de combat, ça m'a donné un peu d'assurance. Je me souviens quand je sortais de séance de boxe, j'étais en mode, comme tu disais, évidemment, il se passait rien. Mais peut-être parce que l'énergie, justement, elle empêchait en fait ça, quoi. Je pense que quand vraiment on est en mode, mais bon, c'est vrai que c'est chiant, faut se mettre en mode guerrière, quoi. Mais ça marche, franchement. Mais on n'a pas envie, mais ça marche. Après, je pense que la technique, c'est peut-être d'éduquer les garçons. Mais là, je suis là-dedans et ça fout une pression maximale. Donc ça, c'est le prochain truc, quoi, d'éduquer les garçons à ne pas faire peur, en fait, tout simplement. Voilà.
Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est super inspirant ce que vous avez dit. Et j'ai une petite question par rapport à ta question, du coup. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir peur aussi, ça alimente encore plus tout ce système d'harcèlement de rue, de « ah, je suis une femme, donc je ne peux pas mettre de robe » ou autre?
Moi, je pense qu'on ne peut pas trop contrôler sa peur. Mais aussi, je le dis dans mon livre, c'est un peu des rappels à l'ordre des hommes qui nous disent « ok, toi, tu es dans la rue, tu as l'air un peu trop sereine, donc je vais dire quelque chose, comme ça, tu vas rentrer chez toi, parce que je ne veux pas te voir là. » Ou des fois, on a l'impression que c'est de la séduction, qui sont sur un site de rencontre, mais en réalité, c'est pas le bon endroit, en fait, la rue. Enfin, voilà. Mais je sais pas si ce serait peut-être bien d'avoir moins peur, mais je pense que c'est pas à nous, principalement, de changer notre comportement. Et c'est juste au harceleur, quoi, de se remettre en question. Et justement, ça passe par l'éducation. Faudrait plus d'interventions au milieu scolaire pour éduquer, quoi. Enfin, comme ça, si dès qu'on est jeune, enfant, on entend que c'est pas bien, ça peut marcher. Et je pense pas que c'est principalement aux parents de donner cette éducation, parce que parfois les parents eux-mêmes n'ont pas eu l'éducation. Enfin, on peut toujours essayer, mais l'école, au moins, ça touchera plus de personnes dans n'importe quel milieu. Et ouais.
Oui, mais c'est sûr que la peur, ça attire aussi, quoi. Mais c'est comme quand on a peur des chiens et que les gens qui ont des chiens disent « Ah, mais n'aie pas peur, il faut pas avoir peur, sinon il va sentir ta peur. » Et ouais, mais t'as encore plus peur, quoi. Donc c'est un peu... Après, c'est faut toujours se mettre dans ce truc-là d'être en mode « j'ai pas peur ». Il faut se le dire consciemment, quoi. C'est ça qui fait chier, en fait. Mais je sais pas, parfois je me mets dans la tête des mecs et je me dis, mais vraiment, ils sont dans la rue, enfin certains mecs. Et ils se disent, tiens, elle a mis un décolleté et en fait, elle a envie de me plaire. Vraiment, je me dis, ils se disent qu'on a envie de plaire à n'importe qui, en fait, enfin, n'importe quel mec. Et ça, c'est un truc quand même, un espèce de logiciel qu'ils ont dans la tête, quoi, de se dire que c'est pour eux. On dirait que le monde, là, il s'offre à eux, quoi. Et en fait, c'est vachement encouragé. Par exemple, je vois là autour, là, il y a il y a un skatepark là juste derrière. Il y a que des mecs dans ce skatepark. Enfin, c'est un truc de fou. L'espace public, il est d'ailleurs Victoire Turion en parle dans un de ses. Mais moi, ça m'a fait exploser le cerveau, quoi. En fait, les subventions publiques, les subventions, l'argent public va aux petits garçons. Enfin, tout ce qui est fait pour les enfants quand c'est dehors, c'est souvent pensé pour des garçons. C'est eux qui occupent l'espace, c'est eux qui occupent les skateparks, les terrains de basket, les terrains de foot, le foot, quoi. Les balles là qu'on se prend quand on passe à côté d'un groupe de gamins qui jouent au foot, mais c'est insupportable. On est obligé de faire un énorme détour. On sait qu'à un moment, on peut potentiellement se le prendre. Donc ouais, il y a cette espèce de truc où ils sont habitués à ce que, en fait, quand ils sont dehors, ça, c'est pour eux, en fait. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faudrait un peu apprendre à déprogrammer. Et nous, on sait, quand on est des femmes, l'espace public n'est pas à nous, quoi. On a vraiment l'impression qu'on n'a rien à y faire, quoi. Comme si on avait le syndrome de l'imposteur dès qu'on sort chez nous, en fait. C'est ouf, hein. Et on a chacune nos stratégies, en fait, pour lutter contre ça. Est-ce qu'il y en a qui vont mettre des robes et assumer à fond? Il y en a qui vont pas mettre de robes ou... Après, ça, c'est vraiment malheureux, quoi. Mais c'est pas à nous de se poser la question. C'est pour ça que ce que tu disais sur le fait qu'on réagit comme on peut, parfois, moi, j'ai assumé d'avoir peur. Avant, j'avais trop honte. J'étais, putain, moi, je suis trop nulle. J'ai aucune répartie et tout. Et en fait, je me dis, bah non, c'est normal, en fait. Enfin...
L'épisode que tu dis, il me semble que c'est avec Yves Rébeau. Je suis pas sûre. Mais c'est, ouais, la ville faite par les hommes et pour les hommes, il me semble. Il en a fait un petit livret et je l'ai cité dans mon livre. Et ouais, c'est vraiment que on a l'impression que tout est conçu pour eux et voilà. Et j'avais vu passer sur les réseaux sociaux sur par exemple la tenue qu'on mettait pour sortir dans la rue en tant que femme. Il y avait ce truc de t-shirt. Il y a un mot anglais particulier, mais en gros mettre un long t-shirt par-dessus sa tenue et c'est pour se protéger et c'est vrai que c'est triste de voir ça, mais des fois on se dit au moins peut-être qu'elles se feront moins embêter et encore on sait pas, ou peut-être que ça les rendra plus confiantes et que justement on verra moins qu'elles ont peur, enfin je sais pas, mais ouais, c'est triste de voir qu'on est obligé d'en venir à ce point-là quoi en 2023.
Désolée, j'enchaîne. Mais il y a aussi cette idée que la libido des hommes, elle est supérieure à celle des femmes. Et en fait, il y a des femmes qui se sont penchées sur la question. Et on a plus ou moins la même, en fait. C'est juste que dans l'éducation, les hommes sont encouragés à l'exprimer et les femmes sont encouragées à ne pas l'exprimer. Donc là, mais c'est un truc de fou. Pourtant, on est quand même censé reproduire l'espèce. Donc on est censé avoir des niveaux quand même similaires. Je veux dire, ça, c'est logique, en fait, si on est sur une même base de libido, c'est fait pour. Et en fait, non, culturellement, on a encouragé l'une et découragé l'autre. Et du coup, il y a ce truc un peu aussi où, les mecs, tu comprends, ils ont des pulsions, voilà, si tu mets un décolleté, il va avoir envie, machin, il peut pas se contrôler. Déjà, on est des êtres humains, on arrive à quand même se contrôler, c'est la base d'être civilisé, d'être éduqué, on apprend à ne pas réagir avec nos instincts primaires. Et nous, on y arrive en tant que femmes, quoi. Donc pourquoi les hommes n'y arrivent pas? Et ça fait aussi... Il y a un truc, moi, qui me rend ouf, c'est qu'on laisse les mecs être torse nu, alors que nous, on peut pas. Et ça, vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, nous, on se jette pas sur les mecs qui sont torse nu, alors qu'on pourrait, je veux dire, parfois, on aurait peut-être envie, mais on le fait pas. Et pourquoi les mecs, dès qu'ils voient un bout de chair, ça y est, ça leur fait péter un plomb, quoi. Donc ça, c'est aussi une construction sociale hyper forte. Ça m'interroge énormément. Et ça pose énormément de problèmes, quoi, ce truc de la libido des hommes là, qui serait impossible à contrôler.
Et c'est aussi que la libido des hommes, elle est beaucoup plus acceptée dans la société que celle des femmes. Et du coup, ça cause plein de problèmes dans les relations sexuelles hétérosexuelles, parce que du coup, en tant que femme, on se connaît moins, donc forcément, on prend moins de plaisir. Et après, il y a toutes ces statistiques qui montrent que les hommes prennent beaucoup plus de plaisir, mais qu'en même temps, ils ont une charge de diriger le rapport. Et ouais.
Bonjour. Merci pour la qualité de vos propos. Ça réchauffe les cœurs. Je partage du haut de ma grande expérience. Et je voulais vous faire part d'une expérience. Donc là, quand j'avais ton âge, parce que je connais ta maman, je me permets de te tutoyer, j'étais avec mon papa qui était bien plus âgé, et scène de harcèlement, j'étais en Tunisie, et du coup je m'arrête et je dis à papa, on s'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il harcèle, t'es présent? Donc j'ai un homme à côté de moi normalement, on nous harcèle que quand on est toute seule. Et mon père m'a dit, du haut de son grand âge, il m'a dit, tu sais, ces bonhommes là qui harcèlent, qui se comportent mal dans la rue à l'égard des femmes, ils vont être hyper violents avec leurs futures compagnes, ils sont hyper agressifs à l'égard de leurs frangines, de leurs tantes, de leurs mères, ils les enferment dans des appartements parce qu'ils ont connaissance et conscience du comportement hyper odieux à l'égard du genre féminin qui circule dans la rue. Et il m'a dit, ces hommes là ils seront jamais tes amis. Mais il m'a dit, par contre, je t'interdis, toi, femme. Et pourtant, il est plus de ce monde. Hein. Il était né en 1925. Et il m'a dit, je t'interdis à toi, femme, de changer d'attitude, de comportement et ta tenue vestimentaire pour tenter de faire plaisir à ces bonhommes-là. Il m'a dit, ils sont minoritaires sur cette planète. Et si vous, les filles, à chaque fois, vous baissez la tête, vous changez d'attitude, vous traversez la rue différemment, vous ne sortez pas le soir, il m'a dit, ils ont gagné. Et ils sont minoritaires. Donc il m'a dit, change d'attitude. Et on était dans la Tunisie des années 90 et je lui dis, mais papa, t'es fou. et du coup, j'étais avec mon t-shirt et tout, je me suis dit, mais il a raison. Il a raison. Au nom de quoi ils vont prendre place ou ils vont donner un sens à ma vie qui ne sera pas celui que moi j'ai décidé pour moi. Et du coup, j'étais hyper fière de marcher dans la rue et en allant aborder ces mecs-là. Et on en a même développé une stratégie, mais peut-être que vous allez être bête, mais avec mes meilleurs amis de l'époque, on harcelait les garçons. On les harcelait véritablement. Donne-moi ton 06, je te trouve mignon, t'as un beau petit cul. Et le mec était hyper mal à l'aise. Et à la fin, j'allais le voir, je lui dis, comment tu te sens? Il me dit, bah, pas bien. Je lui dis, bah, sache que c'est ça notre quotidien. Et qu'on soit belle ou moche, on est tout le temps l'injonction de vos propos dégueulasses. Et ça suffit. Et c'est devenu aussi, du haut de mes 50 ans, je continue de temps en temps de le faire avec ma fille qui a 18 ans maintenant. On ouvre la fenêtre et on dit « Ah, t'as un beau cul !» Et le gars s'arrête et ma fille, elle me dit « Mais t'as pas honte, maman ?» Je lui dis « Non, juste de temps en temps, on lui rappelle qu'il y a des femmes qui sont capables de se comporter aussi de manière malhonnête et aussi dégoûtante que certains bonhommes. » Et je rends grâce à mon papa de cette expérience de vie. Il a élevé 10 enfants avec cette mentalité-là, en interdisant le machisme à la maison. Voilà, donc ça donne ce que je suis aujourd'hui. Mais j'avais une autre réflexion et du coup, je me suis égarée dans ma pensée un peu comme... c'était par rapport à la violence et à la rage dont je vous parliez tout à l'heure sur le fait que les femmes, on doit aussi prendre cette part de violence. Et j'avais le sentiment que mon père, il me transmettait l'autorisation de... Tu as le droit d'être en colère et tu as le droit de leur exprimer ta colère. Et de l'exprimer aussi socialement, de remettre en question les hommes politiques quand ils prennent trop de place et qu'ils disent des âneries. Enfin, de prendre notre place telle qu'on peut la prendre dans l'entièreté de ce qu'on a exprimé, sans qu'aucun censeur ne vienne nous dire « là tu peux, là tu peux pas, là tu dois pas ». Et voilà, et on fonctionne comme ça. Voilà.
Bah, incroyable père. En plus, c'est génial d'avoir un symbole de la masculinité qui nous autorise, entre guillemets, quand on est petite, à répondre à tous ces exemples minoritaires d'hommes, quoi, qui effectivement sont... Je pense, je sais pas, j'ai pas les statistiques dans ma tête, mais ceux qui expriment dans la rue sont minoritaires, effectivement, et c'est vrai que c'est horrible d'avoir peur de tous les hommes, du coup. Bon, après, il y a d'autres formes de harcèlement plus pernicieuses, et là, je pense que c'est bien plus majoritaire, malheureusement, mais incroyable. C'est génial, ça répond à toutes les questions, en plus, c'est trop une bonne idée de harceler. Moi, je me souviens que j'avais une copine... J'avais une copine qui mettait des mains aux fesses au collège aux mecs et c'était ultra violent. Et même moi, ça me mettait hyper mal à l'aise. Je disais, mais elle est complètement tarée. Enfin, il faut pas faire ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Et à la fois, bah ouais, reality check quoi. Ouais, nous aussi, on est capable de le faire. Non. Oui, ouais, exactement.
Ouais. Je disais, les garçons, ils n'ont pas conscience de cette espèce de mal-être ou du fait qu'on réfléchisse à comment dois-je m'habiller ? Si j'emprunte tel chemin, est-ce que cette tenue, elle va sembler convenable ? Et puis à un moment, je me suis dit, mon nom de quoi ? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une tenue serait convenable ou non au regard de quelqu'un qui est en plus un inconnu à mes yeux ?
Oui, oui, oui.
Et c'est ce discours-là que mon père a tenté de me dire, attends, tu es en train de te laisser embarquer dans quelque chose qui n'est pas toi et qui n'est pas la société dans laquelle tu as envie de grandir. Ouais, ouais. Et c'était génial, en fait, l'intérêt de ce propos, de me dire, attends, mais... Et voilà.
Ouais. Mais il y a aussi le truc de la violence des femmes. Il y a une femme qui s'appelle Mona Altaoui, c'est une Égyptienne qui vit aux États-Unis maintenant, ou au Canada, et elle parle de la violence aussi en disant, elle raconte qu'une fois on lui a mis une main aux fesses dans une boîte de nuit et elle a défoncé le type. Vraiment, elle a dit, j'ai vrillé, quoi, je me suis battue avec lui, et il a eu hyper peur. Et elle disait, en fait, le problème, c'est que les mecs, ils pensent que, bon, je dis les hommes et les femmes, et j'inclus toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans. Mais elle disait que, en fait, si les hommes avaient peur de notre réaction, s'ils se disaient, ah merde, elle, peut-être, elle va me répondre. Avoir ce petit doute-là, bah justement, elle dit que pour rééquilibrer en fait la violence, il faudrait qu'il y ait, je sais plus, je crois, 10% des femmes qui sont hyper violentes pour que justement ils aient ce doute et qu'ils se disent ah je vais quand même faire un peu gaffe quoi. Donc c'est vrai que c'est génial d'encourager la violence. Enfin je sais pas en fait, mais on peut essayer d'équilibrer autoriser la violence des jeunes filles quoi. En tout cas ça c'est clair. Moi je sais qu'elle a été découragée petite, je me battais tout le temps et ça a été très 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 fortement découragée et après j'ai complètement été tout le temps sidérée. Et les petits garçons ont encouragé le fait de prendre soin quoi, que c'est pas nul et que c'est cool. Et quand même je pense que les valeurs féminines du care, de prendre soin, de s'occuper des autres et tout, en fait, c'est des valeurs qui sont vraiment trop bien pour la société qu'on a envie de créer, enfin moi que j'ai envie de créer pour demain. Et ce serait bien que en fait les garçons soient éduqués avec ces valeurs-là, quoi.
et qu'on oublie la violence. Mais la violence, elle fait partie de nous, l'agressivité fait partie de nous. Et voilà, c'est toujours une question de rééquilibre, en fait.
Je suis totalement de cet avis de dire qu'il faudrait justement ralentir la violence, parce qu'un monde où il y aurait beaucoup plus de douceur, ce serait tellement plus agréable. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est vrai que voir, par exemple, les hommes politiques tout puissants, ce truc de la poignée de main, de « il faut que je lui broie la main là, pour montrer que c'est moi le mal », c'est pas forcément très pertinent. Et ouais, la tendresse, la douceur, c'est tellement intéressant. Et puis aussi, on se sentirait peut-être moins menacé, juste en tant qu'individu, d'avoir de la douceur. Et ouais, ce serait bien. Et par exemple, il y a aussi ce truc de quand les hommes peuvent se faire harceler dans la rue, peut-être que oui, là, ils se disent « Ok, c'est ça que ça fait aux femmes ou aux personnes qui ont des corps de femmes. » Enfin, je ne sais pas comment le dire. Mais par exemple, il y a aussi ce test qu'on voit beaucoup circuler où on met des petits patchs sur le ventre des personnes avec un pénis. Et elles sentent la douleur des règles. Et là, on les voit avoir le visage tout crispé. Et oui, ça fait mal. Et ben, nous, c'est ce qu'on vit souvent, enfin tout le temps, quoi. Et ouais, aussi se mettre à notre place. Peut-être que ça pourrait faire changer les choses, ramener de l'empathie. Ouais.
Je voulais rebondir sur ce que Madame a dit, parce que je trouvais ça très très intéressant. Le micro, oui. Je trouve ça super intéressant parce que c'est ça que je voulais dire à travers ma question, en fait. Parce que pour moi, la peur, c'est un sentiment, ça ne se contrôle pas. Mais à mon sens, il faut combattre ça. C'est pour ça que je pense que je suis plus du côté de ta sœur, du coup, Tess. Parce que si on accepte d'avoir peur, c'est comme leur permettre de nous faire peur, à mon sens. Et aussi, ce que tu viens de dire... Bah, c'est super intéressant, en fait, d'inverser les rôles. J'avais vu un film qui s'appelle « Je ne suis pas un homme facile » et on se rend compte à quel point les femmes, on est très sexualisées, en fait. C'est incroyable. Et dans l'autre sens, c'est bizarre, mais ça choque. Quand c'est un homme qui va porter quelque chose de très moulant, de très serré, et quand on regarde nos vêtements, bah, c'est fait comme ça, en fait. C'est tout vêtement. Donc, ouais, c'est super intéressant.
On va vous remercier encore une fois, toutes les deux, vous applaudir. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Et bien sûr, toute la conférence sera disponible en podcast dès demain soir, me dit-on, dans l'oreillette. Donc dès demain soir sur la plateforme qui a été mise en place par la Métropole. Donc vous retrouverez sur les réseaux sociaux et sur le site de la Maison pour l'égalité femmes-hommes toutes les références. Les autres conférences précédentes y sont disponibles également. On vous donne rendez-vous le 6 juillet pour la dernière conférence de ce cycle. Donc ce sera Margot Collet qui viendra nous parler cette fois-ci de ce qui se passe ailleurs en Europe, de ce que d'autres pays ont pu imaginer pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, lutter contre les violences. Donc c'est une experte, c'est son métier en fait de travailler sur ces questions-là. Elle a notamment travaillé avec le Centre Hubertine Auclert sur une étude comparative des systèmes français et espagnols de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je pense que ça va être très inspirant aussi d'avoir comme ça d'autres regards, d'autres façons d'agir. Même endroit, même heure, et de la même façon, il y aura aussi une table de la librairie Artaud. Et donc, dès maintenant, ben je vous invite à aller justement consulter les ouvrages, les acheter si vous ne les avez pas encore, et vous les faire dédicacer, bien sûr, par nos deux autrices. Merci.
Vous venez d'écouter Candice DeLéo, autrice de « Et si les princes portaient des robes ?» Tess Kinski, autrice de « Super Cyprine ». Dans le cadre du cycle de conférences de Grenoble-Alpes-Métropole, le féminisme fait le printemps. Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.